C'est ordinaire, mais c'est pas le cas.
On va commencer par Fleur. Alors, on disait l'année dernière, justement, ou au début de l'année, je ne me souviens plus, que Nietzsche, on ne l'avait pas découvert tout d'un coup, et que cette passion pour Nietzsche, elle est ancienne, et elle apparaît dans votre œuvre de façon régulière. Les fleurs, c'est un peu la même chose. Bon, je crois que des journalistes ont fait remarquer qu'il y a que vous aviez écrit un roman qui s'appelait Le Lys d'or. On citait le début d'autres livres où il était question de fleurs, etc. Donc la fleur vous occupe depuis longtemps. Pourquoi soudain est-ce qu'il y a eu une opportunité particulière, une occasion qui a fait que vous avez eu soudain envie de parler et d'écrire sur les fleurs.
Les choses se passent souvent de façon étrange, à savoir que le sujet qui va vous occuper se présente par des voies inattendues. Il se trouve qu'un jour, j'étais à déjeuner chez le très grand collectionneur Pierre Berès, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui vient de vendre sa collection, ou une partie de sa collection, pour des prix absolument faramineux, prouvant même par là qu'une vie entière de collectionneur est quelque chose comme un art de banquier suprême, c'est-à-dire ça consiste à accumuler des éditions rares de tous les temps et de toute provenance. C'est un homme étrange que ce Pierre Berès, et qui, à son âge, encore très vif, était, il n'y a pas si longtemps, reçu par le ministre de la Culture pour porter en sous le bras le manuscrit de la Chartreuse de Parme, en faire don à la nation et à la République. C'était un moment assez émouvant. Le ministre lui-même était tout intimidé de prendre dans ses mains l'écriture même de Stendhal. Bref, un jour, nous déjeunons ensemble, c'est un vieil ami. Et puis je le vois se lever tout à coup et aller chercher quelque chose dans une armoire. Et il me présente, toujours silencieusement d'ailleurs, des fleurs peintes sur soie d'un botaniste très fondamental, mais tout à fait inconnu, dont j'ignorais le nom, Gérard van Spendonck, originaire de Hollande, dont l'élève, qui s'appelle Redouté, à lui, était très célèbre comme un peintre de fleurs. Et il les pose comme ça devant moi, il me demande de les observer, je les regarde par transparence. Et vous les avez reproduites ici dans ce livre de façon, je crois, extraordinairement soignée grâce à l'éditeur qui a édité ce livre. Et voilà, et alors il se tait, et moi je me tais aussi. Et voilà, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que, mystérieusement, un peu plus tard, un jeune éditeur m'a proposé de faire quelque chose à ce sujet, ce qui n'était pas évident du tout. Mais alors, la biographie de van Spendonck, c'est-à-dire, en fait, celle des botanistes français, venus du Nord, hein, ils viennent de Hollande, et ça c'est très important, de la Belgique des Ardennes, Spendonck. Ces gens sont là en opération en France vers la fin du XVIIIe siècle. C'est très passionnant de voir comment, brusquement, dans l'esprit de l'encyclopédie, c'est-à-dire dans l'esprit des Lumières, il y a eu la volonté de s'occuper concrètement de botanique, puisque Spendonck a été le premier directeur du Jardin des Plantes. Et en même temps, le fait de commencer à classer les fleurs, à observer
le premier soir,
leur reproduction très spéciale, et à porter des observations minutieuses.
J'étais bien plus isolé que naufragé sur un radeau au milieu de l'océan,
jardins,
vous imaginez ma surprise au lever du jour.
Et en même temps, de commencer à les peindre, de façon systématique, avec une grande délicatesse, sur soie ou sur vélin. C'est ce qu'on appelait à l'époque les peintures sur vélin, les vélins du roi, puisque ceci commence à la fin de la monarchie française. Ce qui est intéressant sur le plan historique, c'est que ces travaux, tout à fait silencieux, ont été poursuivis sans aucune difficulté à travers la Révolution, la Terreur, Napoléon, etc., que, à vrai dire, dans un pays qui était en plein bouleversement, personne ne s'est avisé d'entraver le moins du monde la sérénité et le travail extrêmement précis de ces jardiniers, mais qui sont plus que des jardiniers, qui sont donc aussi de très grands artistes. J'ai présenté ce livre au Jardin des Tuileries il n'y a pas si longtemps, et une dame très, très sympathique se précipite et me dit « Oh, un livre sur les fleurs, est-ce qu'il y a des photos ?» Et je lui dis « Madame, non, il n'y a pas de photos. » D'ailleurs, des photographies de fleurs, c'est le contraire de l'essence même de la fleur. La fleur n'est pas médiatique, elle n'est pas photographiable, elle n'est pas filmable, elle ne rentre pas dans le système spectaculaire. Pour en avoir une idée, il faut passer alors au travail que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire soit par la peinture, ce serait un autre livre, mais là je parle à la fin du livre de quelques peintres fameux, notamment Manet, qui a fait à la fin de sa vie uniquement des tableaux de fleurs dans des vases ou dans des coupes de champagne, des fleurs absolument magnifiques, et puis, évidemment, Van Gogh, si vous y pensez, n'en parlons pas. Autre civilisation qui s'est intéressée obstinément aux fleurs depuis très longtemps, c'est la civilisation chinoise, avec des rouleaux absolument magnifiques que vous avez en considération étrange, puisque les fleurs sont mises toujours d'une façon... Enfin, l'orchidée, le chrysanthème, qui en Chine n'est pas la fleur que nous croyons ici, ou d'autres, la pivoine, par exemple, sont mis en relation toujours avec des oiseaux, à travers des morbous ou des rochers, etc. Il y a toute une civilisation chinoise de la fleur qui est particulièrement intéressante, et c'est intéressant de se demander pourquoi c'est en Chine que ça s'est développé, sur des rouleaux, avec la calligraphie, les poèmes, etc. Et puis, évidemment, les écrivains. Qu'est-ce qui se passe lorsque je me dis, tiens, je vais demander à ma mémoire, à ma bibliothèque, en m'apprenant, chemin faisant, beaucoup de choses, des choses que je savais, mais des choses que j'ai approfondies, je vais demander à la bibliothèque de me raconter ce que les poètes ou les écrivains ont pensé, dit, écrit à propos de fleurs. Parce que ça les a beaucoup préoccupés. Et c'est comme ça qu'on peut partir, en commençant par le cantique des cantiques de la Bible. Vraiment, le thème est extrêmement vif à propos d'Ulysse. Dans la vallée, dira un écrivain comme Balzac.
Qu'il n'y est pas dans le livre.
Il n'y est pas parce que c'était difficile de trouver les passages. Mais j'ai un petit repentir, cela dit. J'aurais pu prendre des passages intéressants de Balzac. Mais enfin, bon, là, tout à coup, ce qui m'a frappé, c'est l'extraordinaire variété et prolifération de la référence florale à travers les âges. Alors, bien entendu, par exemple, il faut se demander comment un poète comme Dante a eu cette idée ahurissante, qui nous paraîtra de plus en plus étrange, de transformer la Vierge Marie en rose céleste, blanche. C'est la fin du paradis, que viennent butiner des myriades d'apôtres, d'élus, etc. Pourquoi faire de cette apothéose virginale et florale le comble de la vérité interne au catholicisme ? Qui là se trouve être, en effet, bon, avec tous les thèmes... que ça suppose, Immaculée Conception, Incarnation, Assomption, etc. Enfin, alors, on ne va pas parler de ça abstraitement, mais tout à coup, vous êtes devant une fleur gigantesque, admirablement décrite, hein, avec toutes ces... Et où le poète est aspiré, il va contempler une rose blanche céleste. Bon. Après quoi, vous pouvez tout à coup vous passer, par exemple, au XIe siècle, en Perse, il y a là un poète extraordinaire qui est un savant, astronome, mathématicien, qui s'appelle Omar Khayyam, qui a écrit des quatrains très célèbres, et qui passait son temps, c'est ce qu'il nous raconte, à s'enivrer. Donc, d'un côté, il est tout à fait savant, maître de lui-même, n'est-ce pas ? Et de l'autre, et ce sont des quatrains en hommage au vin et à ce qu'il appelle ses tulipes. Et la tulipe est un mot turc, d'ailleurs. La tulipe vient de là-bas. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'où viennent les fleurs. Par exemple, je parlais de Spendonck, de Hollandais au départ. Ce n'est pas par hasard si la Hollande, à ce moment-là, est le pays qui commence à envahir, avec des tulipes notamment, à pousser la connaissance florale, pour des raisons de navigation, etc., d'origine diverse. Alors, vous avez ce Omar Khayyam, quatrain célèbre, admirable de fermeté, et c'est drôle pour quelqu'un qui n'arrête pas de s'enivrer. Alors lui, c'est le vin et les tulipes. Les tulipes, ce sont des femmes, n'est-ce pas ? Ce sont des jeunes femmes. Donc le thème féminin est presque automatiquement associé au thème floral. Que ce soit, alors là, nous ne sommes pas du tout dans une virginité de l'au-delà découvert, nous sommes au contraire dans le concret du vin et du plaisir vraiment corporel, tout à fait souligné, tout à fait a-religieux. Alors, vous voyez, d'ailleurs, vous avez les deux. Ensuite, écoutez, je ne sais plus, il y a évidemment des écrits au XVIIIe siècle, là, que je trouve chez Voltaire, chez Rousseau, etc. Bon. Les fleurs, mais évidemment, les fleurs du mal, bon, c'est-à-dire Baudelaire. Pourquoi est-ce que un poète au XIXe siècle, contrairement à la tradition, mais là aussi vous allez trouver le thème sexuel et féminin, les fleurs du mal. Celui qui m'a le plus étonné, parce que je croyais le connaître à fond, c'est Rimbaud. J'ai cliqué, si je peux dire, fleurs chez Rimbaud. Et tout à coup, du texte des Illuminations, par exemple, sont sortis des textes que je connais, que j'ai lus 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois. Et brusquement, le simple fait de les lire avec beaucoup plus d'attention, de les regarder, en fait, comme si j'étais botaniste, comme si je regardais leur fonctionnement interne, ces fleurs ont surgi. Alors, chez Rimbaud, les fleurs ont une fonction très étrange parce qu'elles sont associées d'une façon illuminante aux bijoux, aux pierres précieuses. Dans des descriptions absolument magnifiques, il y a même un texte qui s'appelle Fleurs au pluriel dans les Illuminations de Rimbaud. Illumination. Ensuite, écoutez, c'est très. Je vais vite, mais tout ça est passionnant, quoi. Tout à coup, les textes sortent. Alors, il y a.
Alors, Philippe, est-ce qu'on peut essayer d'aller un peu moins vite et revenir sur certains points.
Mais il faudrait rester sur les textes précis.
Oui. D'abord, je voudrais vous poser une question. Que vous m'expliquiez pourquoi la fleur n'est pas médiatique et n'est pas photographique. Vous avez un grand photographe qui s'appelle Robert Mapplethorpe, qui a passé sa vie à photographier à la fois des sexes de noirs et des fleurs.